Marc Toiti, bonjour. Vous aviez il y a quelque temps dans nos colonnes pronostiqué la crise financière. Elle est là. Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire un petit peu le point après ces 15 jours torrides?
Écoutez, là on a tout de même atteint, je dirais, une nouvelle étape. Et il faut être honnête, qu'on n'avait pas pu prévoir. Hein. Le vrai problème qu'on a, c'est que malheureusement, eh bien, on a une situation où depuis le 15 septembre, on a laissé faire faillite Lehman Brothers. Eh bien, on est retombé dans, je dirais, le théâtre des horreurs. C'est-à-dire dans une situation où on se dit tout devient possible puisqu'on a laissé faire faillite la 4e banque d'affaires américaine. Donc à partir de là, on a créé, on a restauré le climat de défiance, la perte de confiance. Et donc de ce point de vue-là, c'est ce que j'appelle le concours de beauté négatif, où finalement on cherche, enfin du moins certains, à savoir où se naître, quoi, qui est le prochain sur la liste, et on ne regarde toutes les nouvelles que du mauvais côté de la lorgnette, y compris le plan Paulson du week-end dernier, qui finalement n'a pas eu l'effet escompté.
Donc Marc, on assiste maintenant à l'extension de cette crise financière vers une crise économique. C'est un schéma quand même qui est un peu nouveau. C'était pas comme ça que ça s'était produit en 29. Donc est-ce que ça donne pas une marge en fait technique plus grande?
Non, en 29 la crise était complètement différente. Hein. C'est vrai que d'un point de vue financier, la crise que nous vivons actuellement est certainement la plus grave depuis 29. En revanche, la différence en 29, c'est que on n'a pas réagi. C'est-à-dire qu'en fait, la réserve fédérale à l'époque a laissé les taux d'intérêt très élevés. Il n'y avait pas à l'époque de plan de sauvegarde de l'économie d'un point de vue budgétaire. Et donc, on a laissé la crise financière devenir une crise économique majeure qui va effectivement durer de nombreuses années. Là, la différence, elle est notable, c'est que notamment aux États-Unis, on a réagi. Alors peut-être un petit peu tard, mais on a quand même réagi. C'est-à-dire qu'on a baissé les taux d'intérêt l'année dernière. On a continué à le faire cette année. On a fait un plan de relance de l'activité d'un point de vue fiscal. Et maintenant, on a donc un plan, je dirais, de soutien, de sauvegarde des banques qui va permettre aux banques de retrouver une certaine aisance financière et donc de refaire leur métier. Et donc c'est pourquoi on n'aura pas une situation de crise économique comme en 1929, du moins aux États-Unis, parce que le problème c'est qu'en Europe, comme nous on n'a rien fait, on a même fait le contraire parce qu'on a augmenté les taux d'intérêt et on a eu un euro trop fort, etc., on risque de souffrir un peu plus que les Américains.
Si je comprends bien, on a une crise financière au départ qui conduit à un début de crise économique qui est d'autant plus amplifié en Europe qu'on avait un tissu qui était un peu propice à absorber un peu ces éléments.
Ben non, surtout le vrai problème qu'on a eu en Europe, c'est que malheureusement, on n'a pas du tout, je dirais, anticipé hein, ce qui s'est passé et on n'a pas arrêté de dire que tout allait bien dans le meilleur des mondes, ce qui effectivement n'avait pas de sens. Et donc, comme on a augmenté les taux d'intérêt, comme on a laissé un euro trop fort, comme on n'a pas réagi d'un point de vue budgétaire, il est clair que la récession risque d'être encore plus difficile en Europe qu'aux États-Unis.
Est-ce qu'on peut déjà tabler sur une durée de crise ou est-ce que c'est quelque chose totalement en dehors de toute atteinte?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, faire des prévisions relève de l'acrobatie, hein, je veux dire, ou de la haute voltige, hein, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais c'est vrai que moi je me retrouve dans une situation en tant qu'économiste, comme il y a quelques semaines ou quelques mois, avec le baril à 150$ et l'euro à 1,60$. À l'époque, je disais que c'était plus possible de faire des prévisions économiques, parce que, bah, effectivement, l'euro et le baril n'avaient aucun sens économique. Et on le voit aujourd'hui, on a retrouvé un petit peu, je dirais, nos esprits. Aujourd'hui, c'est exactement pareil sur les bourses. On a une situation qui n'a rien à voir avec la réalité économique. On a une crise de confiance qui dépasse les fondamentaux économiques, donc c'est l'effet de balancier. On est monté peut-être un petit peu trop haut, maintenant on rebaisse un petit peu trop bas, on va revenir sur un niveau d'équilibre. Et donc je pense que, boursièrement parlant, il va y avoir des opportunités d'achat très très importantes et très intéressantes dans les prochains mois, prochaines semaines. Donc on pourrait avoir des bonnes surprises d'un point de vue boursier à partir de la fin d'année, et surtout en 2009. En revanche, d'un point de vue économique, alors là, la récession, on va mettre plus de temps à en sortir, hein, notamment en Europe. Aux États-Unis, je pense que la récession sera de courte durée et on redémarra progressivement en 2009. Par contre, en Europe, on est en récession au moins jusqu'au printemps 2009.
Marc Toiti, vous parlez d'opportunités finalement de rachat. On a déjà une banque qui vient d'être prise par BNP. Est-ce que c'est vers ce genre de choses qu'on va aller?
Oui, tout à fait. Je pense que nous allons vivre une fin d'année 2008 et surtout une année 2009 de formidables restructurations du paysage bancaire, financier et même industriel. C'est-à-dire qu'on va avoir de fortes fusions-acquisitions, des mouvements, je dirais, de concentration, etc. au niveau global. Et donc, d'un point de vue boursier, ça pourrait être effectivement également intéressant. Donc, BNP étrangers, qu'ils soient américains et également des pays émergents.
Alors, est-ce que dans ces opportunités, on va finalement trouver le prétexte pour que la France se modernise, ou bien au contraire, on est obligé de renvoyer ça à plus tard ?
Malheureusement, c'est vrai que c'est la difficulté, c'est qu'on avait un boulevard il y a un an et demi, lorsque Sarkozy a été élu, il avait du moins un boulevard pour faire la rupture tant promise, et malheureusement, on a raté le boulevard, on a fait le plan Altani, on a perdu du temps, et aujourd'hui, évidemment, ça va être plus difficile. Donc, de deux choses l'une, soit, eh ben, malheureusement, on va colmater les brèches jusqu'en 2012, on va essayer de limiter la casse, soit au contraire, Sarkozy utilise cette crise, enfin utilise entre guillemets, hein, c'est-à-dire que finalement se dit que cette crise est peut-être le meilleur moyen de faire la rupture tant annoncée, puisque la meilleure défense c'est quand même l'attaque, et donc c'est un choix politique. Donc là ça dépasse le cadre économique, mais c'est vrai que plus que jamais, la France a besoin de réformes structurelles, notamment en termes de baisse de la pression fiscale, de baisse de la dépense publique et de meilleur fonctionnement du marché du travail. Et malheureusement, ça va être difficile à faire, sachant que là, effectivement, on aurait une récession dure et donc des risques sociaux importants.
Est-ce que finalement, on n'allait pas vers une certaine forme de privatisation et qui va être remise en cause par le fait qu'il va y avoir une crainte vers tout ce qui est de l'ordre des marchés maintenant ?
Alors oui, ça c'est le risque, hein, c'est qu'on est effectivement non pas une baisse des dépenses publiques, mais une augmentation des dépenses publiques, ça serait évidemment le pire qui pourrait arriver. Alors maintenant, il faut quand même pas aussi jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est ce qui est un peu inquiétant. Et puis surtout, je trouve que la crise qu'on vit actuelle est un peu le bouc émissaire idéal. Hein, c'est-à-dire que globalement, on se dit bah oui, tout est à cause de crise, ce qui est complètement faux. La croissance molle en France, elle est là depuis 2002. Hein, et la récession, elle est là depuis le début d'année. Donc cette crise n'a fait qu'aggraver les choses finalement. Donc il faudrait peut-être pas exagérer l'impact de cette crise. Et donc non, moi je pense qu'au contraire, il faut surtout pas, revenir vers des plus d'État, etc. C'est même le contraire qu'il faudrait faire avec une situation où il faut justement réussir à ce que les marchés retrouvent leur vrai rôle, c'est-à-dire le financement de l'économie, ce rôle qu'ils ont un petit peu perdu malheureusement dernièrement.
Alors ce financement de l'économie, on pense notamment aux PME, est-ce qu'elles risquent pas dans des délais très courts d'être privées de cash ?
Ah bah oui, c'est le gros problème, c'est le gros dilemme de cette situation, c'est qu'on a d'un côté énormément de cash, c'est-à-dire que les particuliers ont beaucoup de cash, les fonds de pension ont beaucoup de cash, les fonds souverains ont beaucoup de cash, même certaines entreprises en ont, et puis de l'autre côté on n'arrive pas à trouver des financements. Donc c'est le paradoxe, mais malheureusement c'est que les entreprises aujourd'hui, notamment les PME, sont en train de souffrir de cette situation.
Alors, je vous propose qu'on poursuive un petit peu sur l'axe maintenant qui intéresse nos lecteurs et nos auditeurs, qui sont des cabinets de conseil. On les voit depuis 15 jours recruter quasiment massivement vers les milieux financiers. Hein, d'un côté, les banques débauchent, de l'autre côté, les sociétés d'audit embauchent. Comment on peut voir les mois qui vont venir ? Est-ce que toutes ces grandes structures vont se mettre au service des banques pour essayer de les aider un peu à restructurer ?
Ce qui va se passer, je dirais, dans les mois à venir, c'est que les banques vont de plus en plus externaliser, puisqu'elles vont devoir réduire elles-mêmes la voilure. Donc tout ce qui est, je dirais, société de conseil, etc., ou d'audit, à mon avis, c'est plutôt au rôle, donc elles vont plutôt bien surfer sur la crise, même s'il faut quand même pas se leurrer, les banques vont quand même également réduire leurs dépenses, y compris auprès, je dirais, des cabinets. Donc, dans cette situation, ce qui fera la différence, c'est, je dirais, l'originalité, c'est la transparence, mais c'est clair que dans ces contextes, small is beautiful, et donc finalement, les banques vont plutôt dégrossir, alors que, je dirais, tout ce qui est cabinet de conseil, etc., devraient plutôt en profiter, puisque toutes les entreprises vont devoir restructurer, et ainsi de suite, et moi, même l'État, qui va devoir également restructurer. Donc tout ça fait qu'il y aura du boulot, il y aura du business pour le secteur du conseil et des services en entreprise.
En conclusion de cette interview, quel serait le conseil que vous auriez vers ces cabinets qui demain vont prêter conseil aux PME, à l'État notamment ?
Ben, moi je pense qu'aujourd'hui il faut surtout faire passer un message clair, c'est-à-dire avant tout l'efficacité, avant tout le pragmatisme économique plutôt que le dogmatisme, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas appliquer, je dirais, des vieilles recettes dogmatiques, et puis parallèlement l'enjeu important c'est bien de comprendre qu'aujourd'hui ce qui est important pour une entreprise c'est de savoir ce qu'il attend, donc ça rien de se voiler la face en disant non, il n'y a pas de récession, etc. Non, il y a une récession, et à ce moment, une fois qu'on a compris qu'il y a une récession, excusez-moi.
Est-ce à dire... Oui, Marc. Oui,
par contre, ce qu'il faut aujourd'hui donner comme conseil aux entreprises, c'est justement d'intégrer cette situation difficile, cette crise, et derrière de rebondir. Comment rebondir? C'est très simple. On a trois solutions. Soit on fait des stratégies de niche, donc on est sur des produits, des services qu'on est les seuls à faire. Soit, alors c'est pas exclusif, on peut faire les trois à la fois. Soit on fait des stratégies de recherche-développement, d'innovation. Là, c'est clair que la future révolution technologique est en train de se mettre en place, notamment au travail des nouvelles technologies de l'énergie. Donc ça, c'est important, c'est ce qui amènera de la croissance demain. Et trois, il faut se développer à l'international, notamment dans le monde émergent, qui va aussi souffrir de la crise, mais qui quand même connaît une certaine résistance, et donc devrait plutôt résister et connaître une croissance appréciable. Donc si on a les trois, si on fait les trois stratégies, on est sauvé. Si on en fait une des trois, c'est pas mal. Si on en fait aucune des trois, ben là, il faut soit changer d'entreprise, soit leur dire de le faire. Voilà un petit peu les conseils qu'on peut donner. Et encore une fois, la meilleure défense, c'est l'attaque.
Est-ce à dire que continuer à investir et en étant prudent sur les plans sociaux, c'est pas un petit peu le conseil principal à donner à toutes ces entreprises?
Oui, l'investissement, c'est la base, hein. C'est la règle d'or, hein. C'est continuer à investir, continuer à finalement à faire des paris sur l'avenir, parce que seules les entreprises qui investissent sont sûres de ne pas échouer, si vous voulez, hein. Donc, ou du moins de persister. À l'inverse, les entreprises qui n'investissent pas, alors ça peut être payant à court terme, mais à moyen terme, ce sera catastrophique, parce que si on n'investit pas, on est moins compétitif, et ensuite on disparaît. Donc, c'est justement dans ces moments de crise, c'est là, justement, qu'il faut investir, parce que les investissements, d'ailleurs, sont peut-être un petit peu moins chers, quitte même à grossir, acheter des entreprises qui ne valent pas grand-chose aujourd'hui, et pourtant qui ont des bons fondamentaux. Et donc, de ce point de vue-là, on reste sur une dynamique de croissance qui renaîtra de ses cendres assez rapidement.
Écoutez, Marc Toiti, pour nos auditeurs et nos lecteurs, en tout cas, nous vous remercions. Merci.
Avec grand plaisir et bon courage à tous.
Merci, au revoir.
Au revoir.